Le sens des choses.
Stéphanie Bonvicini.
Jacques Attali. Bonjour, nous sommes très heureux avec Jacques Attali de vous retrouver cet été dans Le Sens des Choses pour une nouvelle série d'émissions à suivre chaque samedi et chaque dimanche de ce mois de juillet. Dans ce temps si privilégié de l'été, nous avons choisi de réfléchir avec nos invités à un sujet qui nous concerne tous, dès la première seconde où nous arrivons sur cette terre et jusqu'à notre dernier souffle, manger.
Après plusieurs étés consacrés à d'autres sujets tout aussi importants comme la consolation, puis les neurosciences et bien d'autres, cette année nous avons voulu nous concentrer sur un sujet apparemment ancillaire, mais en réalité absolument essentiel, crucial, fondamental, qui nous définit et qui définit la condition humaine, celui de la façon dont nous nous conduisons au regard de la nourriture. Nous sommes ce que nous mangeons ce que nous sommes, et cela dit beaucoup de nous. Alors nous allons, au cours de ces 8 émissions, entendre différents regards, différentes voix, ayant quelque chose à dire sur toutes les dimensions de notre nourriture et de l'avenir de cette nourriture. De quoi manger est-il le nom? C'est essentiel pour comprendre qui nous sommes en train de devenir pour le meilleur et pour le pire.
Et cet après-midi, pour en parler, nous sommes en compagnie de Pierre-Henri Salfati, cinéaste, documentariste, scénariste. Et nous avons également au téléphone le paléo-anthropologue Pascal Pic.
Si Pierre-Henri est là, c'est d'abord pour une dimension qui lui est très particulière, c'est qu'il est talmudiste, grand connaisseur de la Bible, et nous parlerons bientôt avec lui tout à l'heure des interdits alimentaires et de ce qu'ils signifient de beaucoup plus que les interdits alimentaires, tels que le langage si complexe et si codé de la Bible permet de le dire. Mais on va peut-être commencer avec Pascal Pic, même si c'est une conversation à 3 et à 4, qui doit se mêler sur la façon dont les hommes, alors je ne sais plus si on doit dire il y a 200 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans, j'en sais rien, se nourrissaient, et si cette nourriture a était un élément de l'évolution et en particulier de leur changement de localisation géographique. Pascal Pic.
Oui, bonjour. En effet, si on compare avec l'espèce la plus proche de nous dans la nature actuelle, qui sont les chimpanzés, nous avons le même régime alimentaire, c'est-à-dire un régime omnivore, composé essentiellement de fruits, également de feuilles tendres, d'insectes et aussi de viande. En fait, il y a quelques espèces de singes qui mangent de la viande. Ce sont donc les babouins, par exemple, quelques macaques, les singes capucins, surtout les chimpanzés et bien sûr les hommes. Maintenant, que se passe-t-il avec les premiers hommes? Les premiers hommes au sens strict sont les Homo erectus qui apparaissent en Afrique vers 2 millions d'années. Alors eux également, ils consomment de la viande, mais d'emblée, la viande, comme chez les chimpanzés d'ailleurs, n'est pas un aliment banal. Les chimpanzés, par exemple...
Pardonnez-moi, Pascal, c'est encore de la viande crue.
Absolument. Justement, c'est ça qui va changer avec les hommes. C'est-à-dire que c'est bien de la viande crue, mais d'emblée, même si c'est de la viande crue, chez les chimpanzés, ils viennent de manger leurs aliments donc végétaux au sens large, et ils voient passer deux, trois singes colobes ou une antilope, ils vont l'attraper, et là, ça devient un acte social extrêmement important. Pourquoi? Parce que la viande est la seule nourriture qui arrive de façon discrète, donc en grande quantité, et qui se partage. Et c'est un enjeu social extrêmement important, et le partage de la viande est un enjeu considérable.
Quand vous dites de façon discrète...
Discrète, ça veut dire que ça arrive d'un bloc, quoi.
C'est ça, voilà.
Si vous prenez un fruit ou des feuilles, voilà, à part quelques gros fruits, vous pouvez partager, mais ça c'est plutôt rare, la viande, ça arrive tout de suite en grande quantité. Et ça se partage. Chez les hommes, c'est pareil. Mais ce qui va changer, effectivement, c'est l'arrivée de la cuisson, vers 2 millions d'années, c'est beaucoup plus ancien qu'on l'imaginait, et la cuisson va jouer un rôle extrêmement important, pas que pour la viande, contrairement à ce qu'on a dit, parce que la viande crue, tartare ou carpaccio se digère très bien. Bien sûr, la viande cuite, ça permet d'enlever les toxines, ça peut permettre d'attendrir, ça donne un autre goût, il y a des réactions chimiques, des réactions mélas, mais néanmoins, c'est surtout beaucoup plus important pour la prédigestion des aliments végétaux. En gros, tout ce qui concerne les tubercules, les racines, les bulbes ou autres, sont des nourritures qui sont de bonne qualité nutritive, mais qui nécessitent une cuisson qui va favoriser donc la digestion. Et à partir de là, les premiers hommes vont inventer ce qu'on appelle la coévolution. Dès cette époque, vers 2 millions d'années, les inventions techniques et culturelles des hommes vont considérablement modifier leur physiologie, leur biologie et même leur capacité cognitive. Donc c'est pas une mince affaire parce que tout ça est lié évidemment.
Et tout ceci se passe dans une région particulière, c'est-à-dire en Afrique bien sûr.
Oui.
Même si ces hommes commencent à bouger, est-ce que la façon de se nourrir va être un élément de leur voyage et de l'évolution de leur taille de cerveau et de ce qui va conduire au sapiens sapiens?
Bien sûr. Ce qu'on découvre aujourd'hui, comme vous le savez, en médecine, on parle du microbiote, on parle du cerveau, que notre estomac serait notre second cerveau, que marcher participe à la cognition et que même marcher participe à la créativité, mais si on mange bien, c'est beaucoup mieux. Tout ça va en même temps et ça met en place avec les Homo erectus. Or, la viande est la seule nourriture qu'on trouve partout, sous toutes les latitudes. À partir de cette époque-là, les hommes vont être les premiers singes ou grands singes, même au sens le plus large du terme, qui vont s'affranchir du monde des arbres et ils vont aller s'engager sous des latitudes et des altitudes que aucun singe ou grand singe, même aussi éclectique qu'il puisse être, n'avait pas pu faire. Et en plus de ça, la cuisson, évidemment, va permettre de traiter l'ensemble des aliments qu'ils vont trouver. Donc, il y a une disponibilité de nourriture, notamment la viande, qui n'est pas l'aliment dominant, surtout sous les tropiques, mais qui va prendre une part plus importante. Et aussi, ces techniques, donc, autour des collectes, autour de la redistribution, autour de la préparation et bien sûr la cuisson, qui vont donner accès donc à un large éventail de nourriture parce qu'on les détoxifie, on les rend plus tendres et tout ça va bénéficier à une dynamique de la bipédie qui est absolument remarquable. L'homme est une espèce endurante absolument remarquable, mais pour cela, évidemment, en plus de son gros cerveau, il faut le nourrir. Donc tout ça va en même temps.
Alors on passe les siècles et les millénaires,
oui.
On a plusieurs espèces du genre humain qui existent en même temps, qui se juxtaposent, qui peut-être d'ailleurs se mélangent sexuellement et se reproduisent ensemble, se métissent. Est-ce qu'ils se nourrissent de la même façon et est-ce qu'ils se nourrissent les uns des autres? Autrement dit, est-ce qu'il y a, 200-300 000 ans, du quasi-cannibalisme par le mélange et la nourriture d'une espèce humaine par une autre?
Non, les hommes, même s'ils sont de différentes espèces, ne se reconnaissent pas comme de différentes espèces. Sinon, évidemment, il n'y aurait pas eu, comme vous l'avez dit, ce sont des données assez récentes, dans quelques régions du monde, notamment au Proche-Orient et dans le corridor de la mer Noire, des échanges de gènes entre les Homo sapiens que nous sommes nous et les hommes de Néandertal. Alors, il y a une règle générale pour l'alimentation. Quand vous allez des tropiques, de la bande des tropiques ou de l'équateur, en remontant vers les hautes latitudes, la part de l'alimentation carnée augmente. Ça, c'est une règle générale. Plus vous allez par le cercle arctique, plus la nourriture est sur pattes, si vous me permettez cette expression. Les Inuits, les Even, les peuples circum-arctiques aujourd'hui ont essentiellement des ressources donc animales pour se nourrir. Donc, dans les grandes tendances, quand vous êtes près de l'équateur, c'est 2/3 de ressources végétales, 1/3 de ressources animales. Et plus on va vers les hautes latitudes, plus la proportion de part animale augmente jusqu'à ne plus avoir grand-chose en termes de part végétale. Alors donc les Néandertaliens, on les décrit beaucoup plus carnivores que nous les Homo sapiens, parce qu'évidemment ils vivaient sur de plus hautes latitudes et qui plus est en Europe glaciaire. Donc forcément, ils s'étaient spécialisés dans la collecte de gros animaux, mais il y avait des Néandertaliens au Proche-Orient, comme en Syrie, en Israël, en Irak, où là, on retrouve une proportion plus large d'alimentation végétale. Quant à nous, les Homo sapiens qui venions d'Afrique, donc de régions tropicales ou subtropicales, nous sommes arrivés avec, dans nos bagages, des techniques et des stratégies de collecte et de préparation beaucoup plus poussées sur les nourritures végétales. Alors évidemment, ils ont dû échanger quand ils se sont rencontrés. Et puis là, on arrive à quelque chose de considérable. C'est que beaucoup de gens se posent la question, mais enfin néanmoins, ces hommes et ces femmes de Néandertal avaient un cerveau plus gros que nous, ils étaient bien adaptés, ils avaient des stratégies de chasse extrêmement élaborées, ils construisaient des abris, ils avaient des parures, enfin bref, à l'époque, personne n'aurait pu dire la suite de l'histoire, puisque nous, les Homo sapiens plus ou moins archaïques et les Néandertaliens, nous avions quasiment les mêmes capacités adaptatives et les mêmes capacités d'innovation. Et ce qui va peut-être jouer justement dans la compétition qui va finir par s'installer entre nous et les Néandertaliens, c'est peut-être justement ce régime alimentaire. Comme nous venons du Sud, nous avons inventé différentes techniques et connaissances qui permettent d'exploiter certainement plus en profondeur les ressources. Alors que Néandertal, lui, était plus obligé d'aller suivre les troupeaux et leur migration. Donc voilà le scénario qu'on peut imaginer. Néandertal est installé sur son territoire. Homo sapiens arrive. Et on sait que les populations qui sont beaucoup plus sur économie de chasse sont moins nombreuses, c'est-à-dire que les groupes sont moins nombreux et beaucoup moins sédentaires parce qu'ils suivent évidemment les déplacements des troupeaux. Tandis que des populations qui ont une exploitation plus en profondeur d'un plus large spectre de nourriture, notamment végétale et aquatique, eh bien ces groupes sont plus nombreux et un peu plus sédentaires. Donc le scénario devient tout simple. Néandertal est là, nous arrivons, bonjour, ça va, on s'échange des outils, des aliments, nous avons l'amour, il y a aussi des coups qui passent au passage, mais grosso modo, ça se passe assez bien. Néandertal s'en va suivre son parcours habituel. Cro-Magnon, c'est le nom d'Homo sapiens lorsqu'il arrive en Europe, s'installe, ils sont plus nombreux, Néandertal revient, ah, ils sont là, ils sont plus nombreux, ils sont bien installés, et petit à petit, on voit reculer les aires de répartition de Néandertal. Donc très certainement, les stratégies de collecte de nourriture, de préparation, le spectre des choix de nourriture ont dû intervenir de manière plus importante qu'on l'imaginait dans la relation Néandertal et nous, Homo sapiens, et finalement Néandertal finira par disparaître.
Je vais faire un saut pour arriver vers la période où il y a vraiment la sédentarité, parce que vous avez parlé de sédentaire, mais oui. Je crois en être resté à l'idée que la sédentarité ne commence qu'au 8-9e millénaire avant notre ère, pas avant. Mm-hmm. Et que la sédentarité, on ne le sait pas assez, commence par l'élevage, l'agriculture apparaissant après l'élevage. C'est l'élevage est la première activité des sédentaires, et c'est les éleveurs qui inventent l'agriculture dans la région. On va retrouver d'ailleurs Pierre-Henri Salfati, puisque c'est au Moyen-Orient. Mais avant d'en venir là, est-ce que dans toute cette période qui est en effet le triomphe progressif de l'Homo sapiens sapiens, et la réduction de la diversité, puisque toutes les espèces quasi-humaines ont disparu, ce qui, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, enfin on en pourra en parler. Est-ce que dans cette période, il y a ou non un rituel de la nourriture, et en particulier dans ces rituels, est-ce qu'il y a des interdits, et est-ce qu'il y a du cannibalisme?
Alors, sur le cannibalisme, je peux répondre. En fait, chez les ancêtres de Néandertal, qu'on appelle par commodité les pré-néandertaliens, c'est notamment dans des sites d'Espagne, où là il y a beaucoup de grandes découvertes, vers 400 000 ans, 600 000 ans, il y avait une stratégie de cannibalisme qui était quand même assez importante. Et là, c'est assez troublant. Alors, on n'aime pas trop parler de ça, comme vous le savez, il y a beaucoup de tabous autour du cannibalisme. Alors on se dit, voilà, c'est peut-être du cannibalisme rituel ou occasionnel, un cannibalisme de disette. Mais là, il semblerait qu'il y ait une stratégie quand même assez poussée, comme on connaîtra chez les Amérindiens à d'autres époques, hein, ce qui avait scandalisé beaucoup les Espagnols au moment de la conquête des Amériques. Le nombre de restes humains qui ont été grattés, dont les os ont été travaillés au silex et passés au feu, est absolument considérable.
Pour ma part, je suis convaincu que, plus par intuition que par science, depuis très longtemps, que le cannibalisme est structurant dans la condition humaine, puisque manger l'autre, c'est manger le mal pour en recevoir la force.
Et alors, il y a ça aussi. Alors, là, ce sont des rituels. Alors, c'est peut-être le cas que nous avons en Ardèche. Ça s'appelle la baume de la moula, où on a retrouvé donc des restes d'ossements humains, donc néandertaliens, qui portent des marques de traitement de boucherie, soyons clairs. Et on trouve des traces de protéines dans les fesses fossiles, qu'on appelle les coprolites. Et donc, il y a eu consommation de viande humaine. Mais, comme vous le savez, il y a beaucoup de rituels, même encore aujourd'hui, dans lesquels les cendres des morts, ou même les parties des morts, sont intégrées dans des plats, de telle façon que on réintègre, évidemment, leur âme, leur force, ou certains aspects donc de leur spiritualité. Donc c'est en archéologie, c'est très difficile de distinguer entre les deux, mais on ne peut pas nier qu'il y a eu du cannibalisme, et même dans la lignée humaine, on a des traces sur un squelette s'appelle le squelette de Bodo, qui remonte à 300 000 ans en Afrique. Alors, est-ce que ça a été des traces de rituels, de décharnement avec du cannibalisme? On ne peut pas le dire, mais c'est fort probable que ceci soit intervenu durant plusieurs périodes et de manière plus ou moins intense.
Et est-ce qu'on a une idée, puisqu'on commence à connaître des rituels funéraires par différents restes qu'on a retrouvés, est-ce qu'on a une idée des interdits alimentaires qui pouvaient exister avant la sédentarité?
Non, malheureusement, on n'en a aucune idée aujourd'hui. Néanmoins, je vais me permettre deux remarques. La première est que certainement les pratiques autour des morts, donc les rituels autour de la mort, remontent au moins à 500 000 ans. Les preuves indéniables sont en Espagne à 400 000 ans pour la lignée néandertalienne, et on en a plus ou moins ténues qui remontent à 300-400 000 ans pour Homo sapiens en Afrique. Donc comme les deux espèces sont sœurs, comme vous le savez, donc ça remonte au moins à 500 000 ans. Et les traces du cannibalisme apparaissent aussi à ce moment-là. Donc il y a des représentations très fortes avec des tabous, des rituels qui sont associés, non pas à l'interdit de la consommation de chair humaine, mais qui certainement ont suscité, pour diverses raisons, cette consommation de viande humaine. Donc ça, c'est une chose donc tout à fait claire. Et il y a une autre partie de votre question qui vient de m'échapper, pardon.
Est-ce qu'il y a d'autres interdits que l'interdit cannibalistique qui peuvent avoir existé, en sachant que le cannibalisme est sans doute possiblement structurant dans le rapport à la nourriture?
Bien sûr, je pense aux prochains comme ça, qu'ils soient néandertal ou sapiens, ça je suis bien d'accord avec vous. Moi, je vais faire une incise vers l'art préhistorique. Par exemple, à Lascaux, il y a donc de représenter des aurochs, des cerfs, des chevaux, des boutins, de rares prédateurs. Et on a pensé pendant longtemps que c'était des fresques, des représentations qui pouvaient, avec quelques cultes, rendre la chasse plus propice. Ben que nenni. En fait, on s'aperçoit qu'ils mangeaient du renne. Et donc, on peut imaginer qu'effectivement, qu'il y ait une différence, comme l'exprime l'art préhistorique à Lascaux et ailleurs, entre les espèces qu'on représente, qui sont effectivement des espèces symboliques, qui sont liées à leur cosmogonie, à leur conception de la création du monde et de ce que doit être le monde dans les mondes imaginaires ou les mondes de l'au-delà, et ils ne mangeaient pas les mêmes animaux que ceux représentés. Donc on peut dire, je crois, sans trop de risques et sans trop exagérer cette hypothèse, qu'en effet, il devait y avoir des animaux, comme dans le totémisme, qui faisaient l'objet de consommation et d'autres de représentations sacrées.
Les animaux qu'on voit représentés sont ceux qu'on ne mange pas?
Pour Lascaux, en tout cas, oui.
Très intéressant. Ça renvoie aussi peut-être, on en reviendra tout à l'heure avec Pierre-Henri, à l'interdiction de la représentation vivante dans l'iconographie. Alors on fait un grand saut dans le temps et on arrive vers 10 000 ans, 10, 9 000 ans, et on arrive à la premier début du balbutiement de la sédentarité qui se trouve, semble-t-il, au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Vous en êtes toujours à cette hypothèse?
Oui, alors les plus anciennes traces, sachant qu'il y a eu quand même 7 à 10 foyers des inventions des agricultures complètement indépendants dans le monde, mais les plus anciens sont effectivement au Proche-Orient.
Voilà, donc nous sommes au Proche-Orient, c'est là où il y a 7-8 000 ans apparaît autour d'une mer qui n'est pas morte à l'époque, mais qui est très vivante, poissonneuse et fertile, qu'on appelle aujourd'hui la mer morte, les premières installations humaines sédentaires, Jéricho est la première ville.
Et oui.
Qui n'est pas, qui est un port à l'époque sans doute, puisque c'est un port au bord d'une mer. Et là, les hommes s'installent. Et est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils consomment, de la façon dont ils se nourrissent, puisqu'ils commencent à faire de l'élevage avant de faire de l'agriculture?
Oui, ils intègrent un petit peu, comme on connaît en Corse, ces sangliers ou cochons sauvages, des relations entre les villages, les champs, les jardins, les animaux qui viennent. Certains on les attrape, certains on les chasse, certains on les nourrit et puis on les attrapera un jour ou l'autre. Donc il y a eu toute une grande diversité de relations avec ces animaux plus ou moins sauvages. Donc au départ, effectivement, après le dernier réchauffement climatique, le Proche-Orient a bénéficié d'une diversité écologique absolument extraordinaire, avec des milieux qu'on appelle en mosaïque, et les milieux en mosaïque, qui avec des forêts, des savanes, enfin en tout cas des champs, des prés, tout ça est extrêmement propice à une plus grande biodiversité. Et donc ça leur a permis, avec cette abondance, d'abord de se sédentariser, comme vous l'avez très bien dit, et contrairement à ce qu'on a prétendu pendant longtemps, et en sédentarisant, évidemment, ils ont beaucoup mieux maîtrisé les cycles de production des plantes et les mœurs des animaux. Et ça va prendre plusieurs milliers d'années, vous avez raison. et les premiers villages, Jéricho d'ailleurs étant une des plus anciennes villes, et il faut le rappeler, une ville qui n'a jamais cessé d'être habitée depuis 10 000 ans. C'est la seule d'ailleurs que l'on connaît comme cela. Et à partir de là, on voit apparaître de nouveaux cultes, avant que n'arrivent les vraies grandes cités comme Ur, Uruk ou autres. Et là, on va voir arriver des cultes, comme par exemple à Çatalhöyük, qui est en Anatolie, donc un des premiers grands villages, Pueblo, on pourrait l'appeler comme ça, mais c'est quand même énorme. On a des cultes notamment du taureau, le culte du taureau a été extrêmement important. Hein. Avant que n'arrivent les grands monothéismes, tout l'Est méditerranéen est marqué par l'image du taureau. Alors, le Bosphore, c'est le passage du bœuf. Les monts Taurus, les taureaux blancs de Memphis, tout ceci a énormément marqué les imaginaires. Et donc, il y avait déjà des animaux qui étaient sacralisés, comme les grands aurochs, qui vont devenir les bœufs. Donc, dès cette époque-là, il y a certainement des interdits alimentaires. On mange tel animal ou pas tel autre.
Sir Pascal Pic, c'est l'occasion pour moi de passer le relais et continuer la conversation à trois. Vous pouvez vous continuer à intervenir naturellement avec Pierre-Henri Salfati, puisque le taureau, c'est Baal, et c'est donc une religion qui apparaît aussi en même temps. Et à ce moment-là, sans vouloir dater historiquement le monothéisme, qui, par sa structure de religion, se veut éternel et universel, c'est peut-être le moment, cher Pierre-Henri, que vous nous disiez qu'est-ce qui est dans la Torah, essentiel dans le rapport à la nourriture, tant dans les interdits que tout le monde connaît pour ce qui est autorisé ou pas autorisé, que dans le rapport à la nourriture qui est fondateur, évidemment en commençant par Adam qui sert à fabriquer la femme, et le rapport aux deux arbres sacrés du jardin du paradis. Est-ce que vous pouvez nous tracer ce portrait global du rapport à l'alimentation au début de la Genèse?
Alors en fait, on passe au mot judensis, peut-être, ou au mot kacherus, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire on passe de l'histoire, de la science, du savoir, plutôt pointu. Mais effectivement, on n'était pas là pour voir, mais on fait confiance à ce qu'on vient d'entendre, à un autre rapport au monde. Disons que la Torah, moi, le judaïsme, le premier monothéisme reconnu comme tel aujourd'hui, disons, évoque non pas l'homme en tant qu'être mangeant, mais finalement l'homme en tant qu'être ne mangeant pas. C'est-à-dire, effectivement, quand on sort du ventre de sa mère, le premier réflexe est de casser son jeûne, on va tout de suite manger sa mère en l'occurrence. Il s'avère que dans ce texte inouï, on va le voir, de la Genèse, la première chose qui lirait ce que d'autres appellent Dieu, disons, ce que la Torah appelle autrement, à sa créature, par le fait de ne pas manger une chose. Tu ne mangeras pas cela. C'est assez intéressant. C'est-à-dire, le premier contact, c'est, d'une certaine façon, le jeûne ou la restriction. Et qui plus est, et on verra que on est ailleurs que dans le religieux ici. Si on étudie ce texte d'un point de vue purement, disons, philologique, les indices qui y sont semés vont nous faire vraiment poser la question qui a écrit ce livre-là. En l'occurrence, le végétal interdit, donc qui positionnerait l'homme d'abord comme végétarien, le végétal interdit est curieusement lié au savoir. C'est-à-dire, les gens ne se sont pas réellement posé la question de pourquoi un arbre de la connaissance et pourquoi il ne faudrait pas le manger. Et en fait, l'interdit, dit-on dans les midrashim, enfin dans la tradition hébraïque plus sophistiquée, devait durer 3 heures. Malgré la courte période de l'interdit, l'interdit a été transgressé. Alors on est dans le symbolique, disons, mais pas que. Parce que l'homme ne fait que transgresser son propre symbole, disons, sa valeur symbolique. Donc ce qui va fonder finalement cette religion-là, c'est le rapport à la conscience qu'il est incroyable que le monde ait du goût, que cet univers soit comestible. Non seulement comestible parce qu'il va nous substanter, mais il nous substante avec un certain goût. On ne se pose pas vraiment la question de savoir si les gens qui mangeaient autrefois aimaient ce qu'ils mangeaient ou non. Et le goût déjà fait le choix, c'est-à-dire l'être humain va manger ce qui va le nourrir, mais aussi ce qu'il aime, ce qui a bon goût. Et je voudrais simplement, d'un point de vue philologique, attirer l'attention sur le fait que manger en hébreu se dit « echol »,« achol ». Ça s'écrit Aleph, qui est le taureau, figurez-vous, en hébreu, Aleph, qui veut dire beaucoup de choses, l'unique, mais surtout le taureau. Kol, Aleph Kol, ça veut dire l'un et tout. Or, manger, c'est manger le monde. Manger un bout du monde, c'est manger l'intégralité du monde. Manger une pomme, c'est manger l'humanité. Curieusement, la science le démontrerait. On est ailleurs que dans le religieux et dans la science ici. En fait, le mot « goût » en hébreu veut dire trois choses, si je puis dire. Ou du moins, plus précisément, le mot « taham » qui veut dire « goût » veut dire aussi la raison et veut dire aussi l'accent, comme quelqu'un qui a tout perdu sauf son accent. Le fait que le monde soit comestible avec un certain goût est un mystère qui associe effectivement l'idée de Dieu à l'homme de façon phénoménale. Mais ce sont des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder directement. Et les gens ont une idée très floue du judaïsme et a fortiori du monothéisme.
Les interdits.
Alors justement, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on interdit quand on interdit ? Est-ce qu'on interdit le goût des choses ? Ou est-ce qu'on interdit quelque chose qui serait toxique? Il n'y a nulle part dans le texte de la Torah, je ne veux même pas dire la Bible, parce que c'est différent, la Torah hébraïque raconte une autre histoire que toutes les traductions de la Bible. L'interdit, qu'est-ce qu'il raconte? De quoi s'agit-il quand on interdit quelque chose?
Rappelez d'abord ce qui est interdit.
Alors effectivement, dans les quatre catégories de nourriture qui seraient minérales, végétales, animales et peut-être humaines, parce que je vais vous surprendre, il y a des lois dans le Talmud qui rebondissent sur ce que vous disiez. Est-ce que l'homme est cachère? Est-ce qu'on peut manger un homme? Vous savez, il y a un interdit, je passe un peu du coq à light, disons, à la lumière. Est-ce que le lait d'une femme rentre dans l'interdit de mélanger le lait et la viande? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut boire le lait d'une femme en mangeant un steak? Alors, je suis allé un peu vite, mais effectivement, on pose la question du cannibalisme. C'est-à-dire que si on n'a plus rien à manger et qu'on va mourir, est-ce qu'on peut manger un mort? Donc, toutes ces questions sont dans la loi juive, dans la halakha, elles sont traitées. Mais l'interdit, en l'occurrence ici, est-ce que c'est l'objet lui-même qui est interdit ou l'idée même qui est interdite? Et si c'est l'objet qui est interdit, est-ce que c'est la substance de l'objet qui est interdite ou le goût de l'objet? Je rappelle donc les minéraux qui seraient interdits à manger, les végétaux qui seraient interdits à manger, ou les animaux qui seraient interdits à manger, ou les hommes qui seraient interdits à manger. C'est très spécifique, l'interdit. C'est-à-dire, en fait, par exemple, la chose la plus connue, on va dire les mammifères domestiques. Il y a une liste dans la Bible qui correspond aux mammifères domestiques permis. Il y en a une dizaine. Pourquoi venir nous rajouter quatre qui seraient les interdits? Les interdits animaux bibliques, d'animaux domestiques, tous les animaux sauvages sont interdits, mais ça demanderait des heures de conversation que je passerai avec plaisir avec vous, parce que ce sont des sujets fascinants. Eh bien, le texte nous dit quelque chose de purement anachronique, et c'est en ce sens qu'on est au-delà de la science et du religieux. Il nous dit qu'il y a deux signes qui vont, chez les mammifères, permettre de reconnaître l'interdit du permis. On va évoquer ces deux signes. Ces deux signes sont le sabot et les dents, c'est-à-dire l'animal doit être ruminant, dit-on, et son sabot doit être fendu. Eh bien, figurez-vous que la Torah cite quatre animaux qui n'ont qu'un de ces deux signes. Pourquoi avoir cité ces quatre animaux? On n'a pas la peine de savoir quels ils sont. Il suffit, le jour venu, de voir en présence de tel animal s'il a un de ces deux signes. Eh bien, pour des raisons pour le moins étonnantes, à savoir qu'il y a de la science plus que normale, si vous voulez. Il y a quelque chose d'anachronique. Ces quatre animaux...
Quatre animaux sont en fait les seuls qu'on connaisse dans l'univers qui ont ces signes.
Il n'y en a pas un cinquième. On n'a pas toujours trouvé, à l'heure d'aujourd'hui, le cinquième. C'est-à-dire, qui que ce soit qui a écrit ce livre, moi je demande à rencontrer les auteurs, qui fussent-ils, ils ne se sont pas jusqu'à aujourd'hui trompés. C'est-à-dire, il n'y a pas un cinquième animal qui est un de ces deux signes. Les quatre animaux, en l'occurrence, sont divisés en deux groupes. Trois d'un côté, un de l'autre côté. Les trois du premier côté...
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de...
Alors, ceux-là sont ruminants, mais n'ont pas le sabot fendu. Quant au quatrième, il n'est pas ruminant, mais il a le sabot fendu. C'est-à-dire qu'il aurait les signes extérieurs de la cacheroute, je vais aller un peu plus vite. Ce quatrième, c'est le cochon et toute sa famille. Eh bien, c'est la preuve pour un religieux orthodoxe croyant que Dieu existe. Le cochon est la preuve de l'existence de Dieu, si je puis me permettre. Parce que jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé un autre d'animal qui serait non ruminant et qui aurait le sabot fendu. Allez, allons-y, jouons, cherchons. Donc, sans même rentrer dans le détail des trois et du quatrième. Simplement, celui-ci, c'est un indice, et c'est ce qui va vous faire dire, d'un point de vue purement intellectuel, hein, je répète, philologique, que ce texte-là est énigmatique à plus d'un titre et se passe éventuellement, si vous voulez, de tous les contresens qu'on lui a portés. C'est-à-dire que l'homo judaïs ou judaïsis ou cachérus, si vous voulez, est qu'un homme de savoir, pas simplement un homme de piété ou un homme idiot qui croira en Dieu qui a fait le monde en 6 jours, sans aller plus loin, si vous voulez. Il aurait commencé un dimanche et ce serait été un vendredi soir. Ok. Et même ce texte-là en hébreu mérite d'être totalement étudié, puisque l'humanité a aujourd'hui justement des semaines de 6 jours, un 7e qui est le week-end. Tout le monde a adhéré à cette chose-là. Donc, en amont, l'histoire scientifique de l'homme, en aval, la modernité qui est la nôtre et le régime alimentaire, nous ramène au milieu, c'est-à-dire ce texte-là qui fait attention à ce que l'on mange. La première loi talmudique concernant la nourriture, qui est le lien le plus intime avec le divin, si vous voulez, pour ceux qui croient, et le lien le plus intime avec l'humanité pour ceux qui ne croiraient pas au divin, peu importe, chacun choisit son camp, après tout c'est la même chose. Eh bien, la nourriture commence par regarde ce que tu manges. C'est chez Maïmonide, par exemple, la première loi, d'examiner ce que l'on mange. Moi, je vois tous les jours des gens qui sont en train d'examiner plus que jamais ce qu'ils mangent. Or, ce que l'on mange nous tue, c'est clair. Mais avant de mourir, on a le temps de réfléchir. Hein, c'est-à-dire qu'on est assassiné par ce monde-là, mais il est consommable. Certains se sont demandé pourquoi l'homme pouvait comprendre un peu le cosmos. Peu se sont demandé pourquoi le cosmos est consommable. Et pourquoi, à la limite même, si on est darwinien, pourquoi les gens qui meurent de faim n'ont pas trouvé du goût à la Terre? La Terre les aurait nourris, ces malheureux qui meurent de faim. À la longue, si vous voulez. Donc à un moment donné, c'est vrai que le fait de choisir ce que l'on mange s'impose au cours de l'histoire de façon de plus en plus flagrante.
Pascal Pic, est-ce que je peux demander le regard de l'anthropologue que vous êtes
et du paléo? Manger de la terre, c'est un peu compliqué, même quand on est darwinien. Mais maintenant, merci pour la petite provocation. Et puis, quand vous parliez des animaux, je me suis dit, ah, il va arriver le cochon qui n'est pas ruminant avec ses sabots fendus. En fait, c'est intéressant, c'est le cochon, c'est vrai, les sabots fendus, mais vous voyez, par rapport aux chèvres, aux brebis, etc., qui sont certainement parmi les 3 autorisés.
Non, les 10 autorisés, excusez-moi.
Les 10 autorisés, oui, c'est ça. Le cochon est une famille très proche de ces animaux-là. Ouais. Et ceux qui sont autorisés ont effectivement sabots fendus avec 2 doigts. Et le cochon, lui, a conservé 4 doigts. Oui. Mais c'est la même famille. Et ces 4 doigts, évidemment, c'est pas lié au fait qu'ils ruminent pas, mais c'est intéressant de voir qu'ils avaient une très bonne connaissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la taxonomie. Maintenant, ouais. Ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez, moi j'ai appris beaucoup de choses en vous écoutant, je vous en remercie.
Moi de même.
Cette période-là est quand même fascinante. Pourquoi? Parce qu'on a une grande rivalité entre différentes cultures, celles qui vont continuer à consommer des animaux sauvages. Donc c'est les derniers chasseurs-collecteurs qui sont à côté de ces premiers peuples néolithiques, donc on est avant les textes que vous évoquiez bien évidemment, et ceux qui vont l'emporter ce sont les agriculteurs, mais cette affaire n'était pas évidente à l'époque. Et puis avec le néolithique vont s'affirmer de nouvelles figurations humaines. On sait que dans l'art préhistorique, de l'art pariétal, les représentations humaines sont rarissimes, mais vraiment rarissimes. Et avec le néolithique, on voit apparaître des figurines de plus en plus fréquentes, à côté justement de ce culte du taureau qu'on évoquait. Et donc c'est fascinant puisque, si je vous ai bien entendu, le judaïsme va être une rupture quand même en termes de civilisation pour une partie de l'humanité, et qui va influencer une grande partie de l'humanité d'ailleurs, c'est que on n'est plus chasseur-collecteur. Si je vous ai bien entendu, on consomme plus les animaux sauvages. On consomme que certains animaux domestiques. C'est la fin des sacrifices des animaux. En plus, ça vous l'aviez pas évoqué, je crois, mais je crois que c'est très important de le rappeler.
C'est en effet une des fondements du judaïsme que d'interdire.
Exactement. On n'a plus de sacrifices d'animaux, c'est quand même extraordinairement important. Et on va vers le monothéisme, en tout cas avec des divinités de plus en plus humaines, jusqu'à ce qu'il y ait une seule divinité humaine. Et d'ailleurs, c'est amusant de regarder comment vont évoluer les autres panthéons, depuis le panthéon égyptien jusqu'au panthéon grec. Dans le panthéon grec, les 2 seules divinités qui sont encore hommes et un peu mais animal sont Lycaon et son Pan. Et Pan qui a joué un rôle très important dans la mythologie et même encore dans certaines représentations actuelles. Pour la petite histoire, on a donné le nom de Pan au chimpanzé. Donc je sais pas qui a eu cette idée-là, mais c'est quand même assez bien trouvé. Mais en effet, on a un mouvement général du néolithique jusqu'aux grandes civilisations qui va vers des divinités de plus en plus humaines. Mais le judaïsme, effectivement, a marqué une rupture très forte parce que les Grecs pratiquaient les tauroboles encore, donc le sacrifice de 100 taureaux au pied des temples, le culte de Mithra, évidemment porté par les légions romaines, qui a posé bien des difficultés d'ailleurs au christianisme. Donc on se rend pas compte que pendant ces 7 à 8 000 ans, il y a eu de grandes rivalités entre les divinités humaines, le monothéisme, les interdits pour consommer les animaux sauvages ou certains des animaux domestiques, et nous aurions été des témoins de cette période-là vers 3000 ans, bien malin aurait pu deviner ce qui allait advenir de la suite.
Je reviens sur le sacrifice. Ce qui est d'abord interdit, je parle sous le contrôle de Pierre-Louis, par le judaïsme, c'est le sacrifice humain, et le sacrifice animal n'est interdit que beaucoup plus tard, en fait, dans l'histoire juive.
C'est vrai,
progression. Oui.
Voilà. Donc, c'est d'abord l'interdit du sacrifice humain qui vraiment marque la grande rupture du judaïsme, qu'on peut situer, si on le situe à la période d'Abraham, à 3 ou 4 000 ans.
Ah, oui, c'est fondamental.
Schlupfschein, man hingerick, meidele. Mach schon die eigelech zieh. Hingerick, is euch dann mamele. Und weint nicht und schreit nicht wie die. Lern sich Kind von dein mamele. Nimm als wie sie nimmt Fali. Morgens wird euch Stein klein Meidele, wird seine Sach bräut in Stier. Eil Julu, eil Julu, schlupf schon mein Kräune nu. Schlupf schon mein narrisch klein Meidele, was ist Hand etwas mit dir? Hingerig is euch dann Ketzele, uns hat gar kein Tannis zu mir. Herr, wie es miaukit, es retze dir, Meidl lost Mammen zu rin. Hingerig ich euch klein Ketzele, und ich wein ich da so wie dir. Eiliulu, Eiliulu, schlupf schon mein Freundenju.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un moment où ces interdits vont s'imposer comme étant des règles qui créent les conditions de la survie et qui correspondent aussi à des interdits prophylactiques, ou est-ce que c'est purement une métaphore de nature théologique ? Pierre-Henri Salvati.
En fait, il faut faire un petit préambule, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a une énorme méprise sur le judaïsme, liée à une longue histoire culturelle. Je veux venir au mot, par exemple. En hébreu, il n'y a pas de permis. Si on traduit le mot originel, qui est devenu interdit dans la langue française, en fait, le mot lui-même, « assour », veut dire « attaché ». Cette chose qui vous attache et à laquelle vous vous attachez. Curieusement, la nuance est très importante. « Permis », ce qui est devenu « permis », aujourd'hui en français, le mot patour à l'origine en hébreu veut dire libérer. Ce qui t'attache d'un côté, ce qui te libère. Donc l'interdit est cette chose dont on dit effectivement que tu vas t'attacher.
Autrement dit, on nous interdit des choses qui nous aliéneraient et on nous autorise des choses qui nous libèrent.
Totalement. On nous incite à nous libérer. On nous incite à nous, effectivement, appuyer plus précisément sur le sens originel des mots, des choses. Donc, d'un seul coup, tout change. C'est-à-dire, quand on va dire que ceci te libère ou que ceci t'attache, c'est autre chose que de la morale d'interdiction. Le Dieu dont le christianisme a rétroactivement rendu les Juifs responsables, les Juifs n'y sont pour rien. Il n'y a pas de mot Dieu dans toute la Torah. Il y a 10 noms qui ont été traduits par Kurios en grec et Théos, mais originellement, ces noms n'ont rien à voir avec cette affaire. De même, l'interdit alimentaire, si vous voulez. De soi-même, l'homme choisit ce qu'il mange, ce qu'il peut attraper. Si on revient à l'Antiquité avec Pascal, les gens sont des chasseurs, ils essaient d'attraper le plus facile, ce qui est le plus proche. Déjà, donc, aller manger un lion, c'est difficile, même pour un rabbin, si vous voulez, à moins d'aller chercher dans un zoo avec un fusil à lunettes. Donc déjà, le sauvage, l'animal sauvage, est difficilement consommable, disons. Mais si un juif trouve le cadavre d'une vache, il ne le mangera pas non plus. Il n'est pas considéré comme cachère. Alors c'est pareil. Je vous disais, interdit veut dire en fait attaché et permis veut dire en fait libéré. Le mot cachère, qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est-à-dire tout ce lexique qu'il faudrait revoir pour qu'il n'y ait pas de réelle mésentente qui dure depuis, on va dire, 2017 ans, pour faire court, avec ce livre biblique. Qu'est-ce que veut dire le mot cachère, déjà ? Le mot cachère, c'est effectivement pas quelque chose qui est lié à l'interdit. Encore une fois. Mais le tri, déjà je reviens à ce que je disais précédemment, le tri, le fait que l'homme trie, qu'il le veuille ou non, ce qu'il mange en fonction d'une part de la facilité qu'il a à l'attraper, ou à l'avoir même dans son boutique en bas de chez lui, ou plus loin, et puis le tri se fait aussi avec la toxicité. Les gens se sont interdits de manger des choses qui les rendaient malades ou qui finalement les tuaient. De même, le goût des choses, je reviens au goût des choses, c'est-à-dire que finalement un goût s'est construit et les gens se sont construits un goût et aujourd'hui on travaille là-dessus. Le Dieu dont il est question dans cette proto-religion, disons, n'est pas un dieu de vice. Il n'y a aucune liste, par exemple, dans la Bible, d'aliments toxiques qui seraient non cachères, ou d'aliments non toxiques qui feraient que la cacheroute, ça voudrait dire une hygiène alimentaire non dangereuse. Et aujourd'hui, il y a l'état de rabbin orthodoxe qui meurt du cholestérol. Leur nourriture cachère les rend aussi malades que les autres. Donc, qu'est-ce que ça induit, le choix du texte ici, tu mangeras ça ou tu ne mangeras pas ça. Qu'est-ce que ça induit, si ce n'est l'idée générique et finalement visionnaire, et c'est en ça que ça me demande réellement qu'on s'y penche, à savoir, si tu manges ça, tu auras plus tendance à être libre pour la pensée, parce que manger, c'est penser. On mange et on parle avec la même chose qui est un trou, qui est la bouche. C'est curieux symboliquement que ce que l'on fait rentrer la nourriture, ce qui en ressort, c'est la parole. Donc il y a ce lien, si vous voulez, symbolique, mais on le vit au concret tous les jours. On mange et l'on parle, et on sait très bien que si l'on parle en mangeant, on fait l'aérophagie. À un moment donné, l'œsophage est...
Donc le fait de manger est considéré comme une contrainte qui est un obstacle à la réflexion et à la prière ou...
Le fait de tout manger. Quand on dit Adam en hébreu, c'est pas un homme. Adam, c'est-à-dire je suis du sang. Tout ce que l'on mange devient le sang. Or le sang, c'est quoi ? Ce qui consomme le plus de sang, c'est le cerveau. Le cœur lui-même distribue le sang. Le foie, ce n'est que du sang. Ce que l'on mange va directement dans ces trois choses. Donc effectivement, on peut très bien associer au fait de manger ceci ou cela, le fait que l'on mange ce que l'on est et que l'on est ce que l'on mange. Et qu'il y a une espèce de réflexion à avoir sérieuse sur ces listes données qui correspondent à ces trois niveaux de la pensée en lettres.
Il y aurait mille sujets qu'on pourrait évoquer dans le quart d'heure qui nous reste. Mais Pascal Pic, je voulais juste vous poser une question. À votre avis, à partir de quel moment arrive le concept de repas, c'est-à-dire d'heure à laquelle de moment à laquelle on mange? Est-ce que les gens des périodes précédentaires mangeaient n'importe quand ils trouvaient de la nourriture, ou est-ce qu'il faut attendre un peu plus tard pour voir s'installer l'idée de repas, et en particulier dans le judaïsme où il y a tout un rituel autour des repas qui visiblement est déjà organisé assez tôt dans l'histoire.
Pascal Pic. En fait, je ne veux pas revenir au chimpanzé, mais il est vrai que les nourritures les plus prisées et qui arrivent en quantité discrète, comme je disais tout à l'heure, font l'objet de partage et donc de négociations sociales. Donc déjà, nous sommes des mangeurs sociaux depuis très longtemps. Maintenant, les observations des ethnologues chez les chasseurs-collecteurs ou les peuples dits traditionnels montrent quand ils sont en train d'aller chercher de chasser ou de collecter des nourritures végétales, ils aiment bien grignoter, ce qu'on appelle le grignotage. Le terme est inapproprié, je vous l'accorde, mais en tout cas, bon, s'il y a quelques baies succulentes qui sont là ou pas en grande quantité, on les consomme. Ce qui n'est pas en grande quantité, on peut le picorer au passage. Par contre, ce qui peut faire l'objet de collecte assez intéressante en termes de quantité et être apporté dans des paniers ou autres, là par contre font l'objet d'échanges. Donc en définitive, les sociétés humaines, à partir du moment où il y a eu ce qu'on appelle la division des tâches, plus la chasse pour les hommes, plus la collecte de végétaux ou autres pour les femmes, mais sachant qu'ils touchent aux deux catégories en ce qui concerne les sexes, mais néanmoins il y a ce qu'on appelle une spécialisation écologique qui est sexuée. Pour avoir un régime alimentaire qui se tienne, il est très clair que les uns et les autres doivent rapporter au lieu d'habitation, au lieu de résidence, et ensuite partager pour les préparer, pour les cuire ou autre. Donc ça, le repas est une caractéristique essentielle de l'humanité depuis très longtemps. Et ce que vous disiez tout à l'heure, cher monsieur, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es, ça c'est extrêmement important, mais le plus important c'est surtout ce que nous mangeons ensemble. En quoi c'est un enjeu social et de solidarité, et c'est ceci qu'on a un petit peu oublié. Aujourd'hui, c'est dramatique, on le voit bien, pardon de passer des chimpanzés quasiment à la période actuelle, mais le fait d'avoir déstructuré les repas avec les fast-food ou autres, on mange chacun dans son coin, on mange rapidement, c'est de l'obésité, on n'a pas d'échange avec les autres, et en plus de ça, vous avez remarqué, il n'y a plus du tout d'interdit. Quelle que soit la viande qui est dans cette nourriture, il n'y a plus du tout de représentation que sur cette viande, il y avait derrière un animal qui a peut-être souffert ou qui avait une vie, etc. Nous vivons aujourd'hui une déstructuration totale de ce qui fait l'humanité depuis peut-être même 1 million d'années ou 2 millions d'années. Et ceci a des incidences extrêmement importantes aujourd'hui en termes de sociabilisation, de santé, d'obésité, même en termes de culture, et nous payons extrêmement cher cela, et nous savons en plus qu'actuellement les pays dans lesquels il y a le moins d'obésité, où les hommes et les femmes sont les plus minces, eh bien c'est la France et l'Italie et une partie de la Suisse, parce qu'effectivement ce sont des pays où on mange à peu près à heure régulière avec la famille et les amis, et nous prenons du temps à table et nous avons des conversations intelligentes. Vous voyez comme tout ça est lié, toutes les difficultés aujourd'hui en termes sanitaires et de santé au niveau mondial sont liées à ces déstructurations séculaires.
Pierre et Salvati, justement, je voulais venir à ce à quoi vient d'aboutir Pascal Pic, c'est-à-dire qu'est-ce que tout ça nous dit sur aujourd'hui ? Mais avant d'en venir à cette question que Pascal Pic vient d'évoquer, je voudrais juste rester sur un dernier point, qui est en quoi la nourriture telle qu'elle a été construite pendant des millénaires et dans sa dimension juive dit quelque chose de la division des sexes, de la façon dont se constitue le masculin et le féminin.
C'est énorme, cette question-là.
Vous avez une minute.
C'est énorme. Ah, c'est trop. C'est trop. Il y a des aliments féminins, des aliments masculins. Tout à l'heure, Pascal évoquait le fait que l'homme va chasser, que la femme va plutôt au champ. Donc, il y a une sexualité de soi, même dans la forme des objets, des choses que l'on mange, et des choses qui se disent. Mais, encore une fois, quand on revient aux mots eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on fait de la philologie, pour avoir défaut de faire de la théologie, puisque la cachoute, ce sont d'abord des règles presque philologiques plutôt que théologiques. Un dieu qui crée le cosmos, qu'est-ce qui se fout de ce que vous mettez dans votre assiette. Donc là, le fait qu'on prenne tellement de soucis à mettre telle chose plutôt que telle autre dans l'assiette montre bien qu'il s'agit d'autre chose que du religieux, une autre dimension, disons. Donc après, pour revenir à votre question plus précisément, effectivement, Nekeva, en hébreu, qui veut dire le féminin, veut dire aussi l'oubli. Zahar, qui veut dire le masculin, veut dire aussi le souvenir. C'est-à-dire, il y a deux manières de se partager avec le temps, oublier et se souvenir. Il se trouve que les hommes mâles, sans s'en douter, se rapportent plutôt à la souvenance, et les femmes femelles, entre guillemets, se rapportent plutôt à l'oubli. C'est savoir que le rapport au temps qu'induit la masculinité et le rapport au temps qu'induit la féminité sont opposés. C'est-à-dire que l'homme veut que le monde ne dure pas. Pour cela, il dure. La femme voudrait que le monde dure. Pourtant, il ne dure pas. Évoquer la beauté de la femme, par exemple, et la beauté de l'homme. C'est-à-dire que l'homme donne son nom même à la famille, cette chose ne devrait pas durer, elle dure. L'homme donne une goutte de semence, il disparaît, il peut même pas assister à la naissance. La femme, elle ne veut même pas que l'enfant sorte de son ventre, et dès qu'il est sorti de son ventre, elle veut le retenir. Donc quand on a de façon générique ces deux concepts en tête, à savoir le rapport éphémère, éternel, lié à l'homme d'une part, lié à la femme à l'envers d'autre part, dans la nourriture, c'est la même chose. On voit plutôt la femme préparée à manger, disons, dans les machistes des religions monothéistes. La femme, elle est au fourneau, elle fait à manger. l'étranger, et même dans d'autres familles qui ne seraient pas monothéistes. Et l'homme, lui, va chasser et consomme et ramène la nourriture sur la table. Et c'est ce mariage des deux qui fait la famille. Hein.
Est-ce que ceci est vrai dans les sociétés dont vous vous occupez, Pascal Pic?
Oui, très certainement, puisque à partir du moment où on va avoir des régimes alimentaires qui nécessitent de plus en plus de technicité, de préparation et de partage, il est très clair que ceci fait l'objet d'organisations sociales nécessaires autour du repas, autour de tout ce qu'on peut apporter comme la prière avant le repas. Donc tout ça, effectivement, a toujours été extrêmement important. Et sauf que, curieusement, ça s'est dissocié que très récemment. Mais le modèle que vous disiez entre la femme, l'oubli et l'homme, le souvenir, c'est intéressant. Regardez, ce qu'on appelait les Trente Glorieuses et la période d'après la Seconde Guerre mondiale, c'est une des périodes, d'ailleurs, certainement les plus machistes, ça on n'en parle pas, où on avait l'homme qui allait au travail, qui rapportait son salaire, et la femme qui s'épanouissait avec les arts ménagers. On a oublié ça, parce que c'est une modernité totalement récente, qui a apporté des bienfaits quand même en termes de confort ménager et de vie sociale, mais en l'occurrence, ce schéma que vous évoquiez, cher ami, qui vient de la Bible, certains modernistes pourraient dire « Ah oui, mais c'est un vieux texte, c'est archaïque », il faut se rendre compte que nous vivons encore, dans nos représentations actuelles, sur ces schémas-là, sauf qu'ils sont transposés sur des revenus, sur qu'est-ce que l'homme peut apporter par rapport aux femmes, et on en sort à peine de cela. C'est très structurant et c'est très ancien.
Dernier point, chers amis, il y a dans un des rituels très importants de presque toutes les religions, je pense toutes les religions, et sur lequel je voudrais vous faire réagir avant qu'on aille vers la conclusion de ce passionnant entretien, c'est le jeûne. Il y a dans presque toutes les rituels l'idée que le jeûne est utile, propice, et je voulais avoir votre réaction à chacun des deux. D'abord vous, Pierre-Henri, d'un point de vue théologique, qu'est-ce que le jeûne?
Alors justement, tout à l'heure, je commençais à vous dire, l'homme, c'est surtout ce qui ne mange pas, finalement. C'est-à-dire que même quand on mange, entre deux bouchées, on jeûne, finalement. Et même quand on mange trois repas par jour, entre les trois repas, on jeûne, même six fois, en fait. Donc le jeûne, maintenant institué comme une obligation, on va dire, morale, religieuse, culturelle, rituelle, amène à plusieurs réflexions. Le jeûne, effectivement, dans les monothéismes, on le retrouve, dans d'autres cultures, on le retrouve. Le jeûne, c'est la réaction, justement, à ce qu'il y a de plus humain en l'homme, finalement. C'est-à-dire ne pas être un homme, être autre chose qu'un homme qui mange, et donc, finalement, s'extrapoler presque, non pas en ange, mais en quelque chose d'autre.
Qui... Jeûner, c'est s'extraire de la condition humaine.
C'est ça. C'est un point transversal, en tout cas dans les religions que l'on connaît ici en Occident. Jeûner, c'est, ne serait-ce que par exemple chez les chrétiens qui jeûnent, c'est une idée, c'est on prend conscience de ce qu'est la misère finalement. On est solidaire de ceux qui sont obligés de jeûner toute la journée, de toute l'année. Donc il y a une espèce de, finalement, réaction presque morale. Ça va générer chez moi une réflexion que je n'ai pas quand je mange à ma faim, disons. Chez les Juifs, le jeûne institué donc comme culte, c'est le divin en l'homme. C'est-à-dire, si l'interdit alimentaire donné d'un point de vue, on va dire, théologique, voilà, tu ne mangeras pas de ça, alors pourquoi tu le mets là? Si tu veux pas que je le mange, je ne le mets pas dans ce jardin. C'est quoi cette affaire? Et tu sais que si je le mange, je vais transgresser cet interdit-là. Donc le lien est absolument intime dans la culpabilité de la transgression, immédiatement. Donc la réparation de la transgression, c'est le jeûne, finalement. Donc la dimension voulue dans le fait volontariste de jeûner, d'un point de vue purement culturel et religieux, c'est l'idée de se rapprocher de l'intimité de ce qui a causé l'homme, inventé l'homme.
Et comme vous le dites dans certains de vos textes, la transgression, c'est ce qui fait la définition même de l'homme. L'homme n'existe pas s'il n'est pas transgression.
S'il n'est pas transgresseur.
La transgression, c'est la condition humaine. Oui. Dans les quelques minutes qui nous restent de cette conversation que je trouve absolument passionnante, est-ce que chacun d'entre vous peut nous dire qu'est-ce que tout ceci vous dit sur la modernité? Vous avez commencé déjà, Pascal, mais qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on a gagné dans cette évolution? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour retrouver ou conserver le meilleur de cette si longue histoire?
On a perdu, me semble-t-il, et on le voit dans les scandales actuels autour des conditions faites aux animaux, on a perdu cet aspect sacré. Vous parliez du jeûne. On ne dit pas manger quand on se lève le matin. Dans toutes les langues, c'est déjeuner. Donc c'est vrai que le jeûne est l'élément essentiel de notre physiologie, et déjeuner est quelque chose d'essentiel. À partir de là, c'est vrai que nos modes de vie modernes ne nous permettent pas trop de le faire, mais on sait très bien que jeûner, c'est la capacité aussi de résister à la tentation, de maîtriser son corps. Ça rentre évidemment dans beaucoup d'ascèses et dans beaucoup d'exercices religieux, mais on sait aussi que ça a des effets absolument considérables sur la santé. Par exemple, en Russie, enfin j'ai entendu parler de ça, quand des personnes ont des cancers, un jeûne bien prolongé, etc., a un effet considérable là-dessus. On a complètement oublié, dans cette société d'abondance, la sacralisation vis-à-vis de la nourriture, parce qu'elle est tellement désacralisée que vous preniez un bout de maïs, pardonnez-moi, ou une entrecôte, ben c'est pareil, parce que tout est emballé de la même manière ou autre. On n'a plus ce rapport à la nourriture, et je crois que notre modernité est quelque chose qui a beaucoup perdu, à la fois en ce qui concerne les rapports sociaux, les rapports à la nature, les rapports à la souffrance, et qu'on soit croyant ou pas, à la capacité de se mettre dans un état de contrôle par rapport à son corps, à ses envies et à ce qui nous entoure. Et ça, je crois que ça dépasse même les religions.
Oui, c'est vrai.
Pierre-Henri Salfati.
Oui, non, mais j'aime bien le déjeuner, en fait. Effectivement, nous déjeunerons ensemble, j'espère, un jour, hein, Pascal, que je ne vois pas avec bien. Jacques.
J'organiserai.
Ah oui, ce serait formidable. Mais en fait, effectivement, la modernité, on n'a jamais été aussi moderne qu'avec l'antique. Celui qui n'a pas de passé n'a pas de futur. Donc, quel est notre avenir, finalement, notre passé, réinterprété, corrigé avec, effectivement, cette grille de l'histoire qui nous a signifié tous nos errements. Et on verra peut-être un jour comment ces lois-là, dites de la cache-route, sont extrêmement modernes. Ce n'est qu'au XXe siècle que, malgré tout, les gens se sont demandé ce qu'ils mangeaient. C'est-à-dire qu'on a imposé sur les produits industriels l'origine. Hein, puisque je vous disais tout à l'heure, le mot taham, goût, veut dire à la fois la raison, veut dire aussi le goût, et veut dire l'accent qui signifie l'origine des choses. Quand vous avez un bon vin, vous pouvez dire l'origine précisément de ce bon vin. Plus il est bon, plus vous pouvez dire l'origine.
Quand vous disiez l'accent tout à l'heure, c'est l'accent qui indique l'origine du lieu.
Exactement.
De la
si
personne.
Vous rencontrez à l'autre bout du monde quelqu'un qui a le même accent de votre rue, vous savez même le numéro de la rue où il habite. L'accent, cette chose-là, c'est ce qu'on donne aux lettres quand on les chante, disons. C'est ça, on dit quelqu'un qui a plus rien, il lui reste au moins son accent. C'est-à-dire qu'il lui reste au moins son origine. Or, c'est le même signifiant qui veut dire la raison, et qui veut dire le goût des choses. Et effectivement, vous avez raison quand vous aimez quelqu'un qui vient du même endroit que vous. C'est sublime. Et c'est ça l'interdit alimentaire. On interdirait le goût des choses. Pourquoi ? Et je voudrais conclure peut-être avec la modernité de ces lois-là. Effectivement, comme disait Pascal, aujourd'hui on a tout déstructuré. Les choses ont besoin et finalement d'être restructurées. Elles sont simplement signifiantes de ces espèces d'errements, de transgression en transgression en transgression. Mais on peut revenir aimablement aux choses. Et le génie de l'homme, Pascal, tout à l'heure, vous nous avez, enfin personnellement, vous m'avez ébloui avec ce savoir, comme si vous étiez là, à ces époques, le cerveau humain est capable de refabriquer à partir d'une dent la vie des animaux à l'époque. C'est juste extraordinaire. Alors, qu'est capable l'esprit de l'homme pour le futur ? Effectivement, manger mieux, manger autrement, manger et en partageant, c'est extraordinaire. Pascal, je tiens vraiment à ce que nous nous retrouvions un jour pour
nous
un déjeuner.
Déjeunions.
Merci, cher Pierre-Henri, merci, cher Pascal Pic, de cette conversation inaugurale de notre série sur la nourriture, où nous allons essayer de poursuivre et d'explorer ces différents chemins.
C'était Le Sens des Choses avec Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini, à la réalisation Doria Zénine, à la technique Jason Taous. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet franceculture.fr où vous retrouverez toutes les informations liées à nos invités. Vous pourrez notamment réécouter et podcaster cette émission. Pour ceux qui souhaiteraient nous écrire, voici une adresse email j@atali.com. Nous vous retrouvons demain dimanche à 16h. Très belle fin de journée à l'écoute de France Culture.